La dernière fois, nous avions commencé à poser quelques jalons pour mieux comprendre comment.
Pas sûr qu'ils en... Vous entendez au fond? J'ai l'impression qu'on n'entend pas le micro là. Il marche, il fonctionne, mais est-ce que les personnes.
Donc, pour essayer de mieux comprendre comment la question de la guérison s'inscrit dans notre chemin vers Dieu. Donc, notamment, ça peut nous aider dans le cadre d'une thérapie, comme aussi dans le cadre d'un accompagnement spirituel, d'arriver à bien articuler les choses. Alors, c'est une question extrêmement actuelle, vous le savez bien. Il y a tout un tâtonnement qui se fait, et comme j'ai envie de dire, il ne faut pas éteindre la mèche qui fume, hein. Il faut accepter que les choses soient encore un peu, comment dire, un peu confuses, qu'il y a encore besoin d'éclaircissement. Donc moi-même, j'essaye de mettre à l'écoute de la grande tradition de l'Église pour essayer d'y voir un peu plus clair et de poser quelques grandes arêtes vives, on va dire. Alors la première chose qui me semblait intéressante, c'est de bien distinguer la sainteté et la perfection morale. Bon, ça, beaucoup insistent là-dessus, par rapport à une recherche de perfection. Moi, je n'aime pas trop l'expression « construire sa personnalité ». Je ne dis pas qu'on ne peut pas lui donner un bon sens, hein, mais je dis que le danger est toujours de considérer l'homme se construisant lui-même, je dirais, en restant dans cette recherche de perfection propre, alors que nous le savons bien, dans la lumière de la révélation, l'homme ne se trouve qu'en sortant de lui-même. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu, et en Dieu, chaque personne est pure ouverture à l'autre, pure relation. Donc nous avions vu en même temps que même si nous ne devions pas confondre la sainteté avec la perfection morale, néanmoins, comme dit Benoît XVI, pour que l'homme puisse parvenir à percevoir Dieu, les forces de son existence doivent agir ensemble. C'est-à-dire sur ce chemin de l'amour, d'un amour extatique, on ne peut pas faire abstraction de son humanité. Et c'est la question de savoir dans quelle mesure ce travail sur notre humanité, sur nos facultés humaines, qui n'est pas un travail que l'on fait directement sur notre cœur, parce que l'essentiel, évidemment, dans notre ouverture à Dieu se joue au niveau de notre cœur, dans quelle mesure ce travail sur notre humanité est nécessaire pour que nous puissions aller jusqu'au bout du chemin. Alors, ici, c'est la question des vertus, c'est-à-dire de ces dispositions qui nous permettent de faire le bien de manière plus spontanée, plus naturelle. Dispositions qui crée un bon habitus, comme on dit, un bon pli dans l'être, qui fait qu'on va plus facilement, je dirais, pratiquer le bien. Bien, le catéchisme dit que les vertus morales nous disposent en même temps nos facultés à communier à l'amour divin. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des choses qui nous permettent de faire le bien et d'avoir une certaine perfection morale dans notre vie, mais que ce sont en même temps ces dispositions morales, ces dispositions vont davantage laisser pénétrer l'Esprit Saint dans notre vie. Elles seront plus de place. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est en jeu, c'est la question de savoir que notre union à Dieu, elle rayonne sur notre humanité et qu'elle rayonne sur notre manière d'agir. Sinon, le danger, c'est toujours cette question de savoir c'est d'une vie intérieure profonde, mais qui soit en décalage avec notre psychisme et notre comportement concret, parce que cette vie intérieure n'arrive pas à rayonner vraiment sur notre vie concrète. Et on voit des gens qui ont une profonde vie de prière et qui en même temps, sur d'autres plans, déconnectent, quoi. Ils sont vraiment à côté du chemin de l'amour. Donc ça fait des doubles vies, ça fait des vies parallèles. C'est ça qui est notamment très attristant quand ce sont des prêtres, quand ce sont des personnes religieuses et que ça devient objet de scandale. Alors, essayons de réfléchir par rapport à la... reprendre à nouveau cette question de la blessure. La restauration de notre humanité, comment la comprendre, comment comprendre la guérison. Il y a des personnes qui vont voir, commencent un chemin thérapeutique parce qu'elles sont en recherche d'un. Elles voudraient retrouver une possession d'elles-mêmes et une plus grande force, hein, et une plus grande harmonie. Mais elles ne sont pas nécessairement à la recherche d'une vraie conversion du cœur. Dans l'écriture, la guérison apparaît comme étant essentiellement la guérison du cœur. En tout cas, ce que Dieu guérit, c'est le cœur. Et même dans l'écriture, si on regarde de près, il n'y a que Dieu qui guérit le cœur. Alors, si on entend par guérison cette guérison radicale qui est la guérison du cœur, à ce moment-là, la question de la guérison, évidemment, fait partie du chemin de la sainteté. Si on entend par guérison le fait d'un état de plus grande harmonie, de plus grand bien-être, de plus grande force psychique, on voit bien que c'est quand même sur un autre plan. Je ne dis pas que ça ne peut pas être utile, mais on voit bien le danger de rechercher ça en premier et finalement de se contenter de sentir un peu mieux dans sa peau, quoi, pour dire les choses simplement. Et Florence dirait mieux que moi si que la plupart des personnes n'en restent pas là et cherchent un chemin de guérison plus profond, hein. Mais je dis malgré tout, il y a des formes de thérapie actuelles qui sont, je pense, des thérapies un peu énergétiques qui ne vont pas... me semble-t-il, tellement dans les profondeurs, mais qui sont censés apporter immédiatement un certain mieux-être pour les personnes.
Oui, tout dépend évidemment du but que les personnes recherchent, d'une part, et puis de ce qui les gêne dans leur vie. Parce que ce que j'expliquais déjà la dernière fois avec l'infection des blessures, c'est que par exemple, si on est blessé dans la relation à son père, à son papa, ça peut jouer dans la relation à Dieu Père. Et certaines personnes ne peuvent pas dire notre Père parce qu'elles ne voient que leur papa. Et une thérapie peut aider à nettoyer, à comprendre qui est cet homme, qui est mon Père, ce qui m'a fait, là où j'ai souffert, là où moi je me suis empatouillée aussi, et c'est l'infection de la blessure. Et comment on peut retrouver un chemin de liberté intérieure pour ne plus être sous le joug de ce Père autoritaire et qui fait très peur. Et là, ça va jouer aussi dans ma relation à Dieu, sans que je sois venue en thérapie du tout pour ça. Vous voyez ? Alors, il y a des interactions qui nous échappent, heureusement, qu'on ne maîtrise pas tout. Et un chemin de thérapie peut permettre... Moi, j'ai une patiente qui me dit, ben, je mets de l'ordre dans ma thérapie. Là, ben, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'en mette aussi dans ma vie spirituelle. Et elle se prépare à la confirmation. Je ne lui ai jamais rien dit de ça. Et elle n'est pas venue pour ça. Mais en fait, en faisant ce chemin de thérapie et de comprendre ce qui lui est arrivé, là où elle s'était fourvoyée, là où elle est blessée, elle s'est dit, mais j'ai aussi une dimension spirituelle, mais j'en ai jamais parlé. Et ça s'est fait de soi-même. Elle a trouvé ce chemin aussi. Voilà, alors, si on vient que pour un bien-être matériel, on va peut-être rester là, mais grâce à Dieu, même les personnes venues que pour un bien-être matériel découvrent, bon, maintenant que je vais mieux, et puis ma vie, elle sert à quoi? Et moi, je dis au Père, tous mes patients, alors on disait, parce que tu es chrétienne, je ne crois pas, je suis chrétienne aussi, c'est vrai, mais tous mes patients débouchent sur une dimension spirituelle, pas forcément chrétienne, mais disent, mais ma vie n'est pas que ces complexes, que ces difficultés que j'ai eues, et quand on arrive à dénouer des difficultés, ils disent, mais ma vie, elle est plus large que ça, et puis je vais où, et je viens d'où, et ils cherchent, et donc une thérapie peut. Ce n'est pas toujours besoin d'une thérapie, bien sûr, mais une thérapie peut être chemin, même si on ne le cherche pas d'abord.
Mmh. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, parce que moi, j'aurais tendance à avoir le danger plutôt de chercher à une auto-construction et une auto-rédemption. On se construit soi et on tente de rester centré sur soi. Mais j'entends bien ce que dit Florence, c'est-à-dire pour certaines personnes, ça peut être une première étape qui désencombre, qui leur permet d'aller plus loin.
Et de se découvrir. Là, ce matin, j'avais une religieuse qui a 50 ans et qui me dit « je ne sais toujours pas qui je suis ». Et c'est la thérapie, elle est en relation à Dieu, bien sûr, mais en fait, son identité profonde n'a pas été rejointe par la parole de Dieu. Elle me dit, mais comment vous faites? Je sais que vous transpirez la parole de Dieu, et moi je ne sais pas faire, et moi je suis religieuse et vous ne l'êtes pas. Ben oui, voilà, on peut être religieuse, c'est donné à Dieu, et Dieu sait, il le sait, qu'elle fait tout ce qu'elle peut, mais elle a une blessure d'identité telle que, justement, j'essaye de voir avec elle, puisque je sais qu'elle est chrétienne et elle le sait aussi, comment les deux peuvent se rejoindre. Mais quelquefois, la vie chrétienne ne suffit pas pour certains, parce qu'il y a trop de blocages. D'autres, le Seigneur est libre, hein, dans ses dons, vous le savez tous, et il peut libérer quelqu'un tout d'un coup, vous l'avez sûrement vu déjà, et puis gloire à lui. Mais il y en a qui sont plus besogneux et où il y a besoin de ce travail aussi humain, oui, qui désencombre, qui libère et qui permet. Et puis le Seigneur travaille aussi là-dedans, quoi. Il n'y a pas l'un contre l'autre, l'un avant l'autre, il y a l'un avec l'autre quand il y a besoin.
C'est-à-dire, de la part de l'Église, on sent bien les interventions, enfin, il y a un document d'une commission épiscopale qui... on sent la crainte qu'on fasse dépendre la vie de la grâce, la vie théologale, d'un travail psychologique. Or, l'Église a toujours affirmé que le don de la grâce est par définition gratuit, que la grâce est plus forte que la nature et que rien ne pourra jamais empêcher Dieu de toucher le cœur d'une personne, comme saint Paul. Ce côté vraiment d'un don absolument immérité, où la personne n'était pas pour le moins bien disposée, et puis ça lui tombe dessus, comme ça, en pensant à la conversion de Claudel aussi. Alors je repense à un témoignage d'une conversion d'un jeune homme que j'ai connu à l'Hôtel Dieu, qui se préparait à être diacre, qui était soigné à l'Hôtel Dieu pour cause de diabète. En fait, c'était les conséquences de plusieurs années de drogue. Et ce garçon m'a raconté qu'à l'âge de 12 ans, son père l'avait vendu à un pédophile. Il était devenu punk, il vivait à la rue, et il se trouve que dans le métro, il a vu qu'une jeune fille allait se faire violer, et il a défendu la jeune fille en question. Et la jeune fille, en fait, se préparait à partir à Medjugorje, et elle lui a payé le billet pour aller à Medjugorje. Lui ne pouvait pas entendre parler de Dieu Père. Ça comprend bien le blocage là, psychique, voyez. Mais je me disais, en entendant Florence, il ne pouvait pas entendre parler de Dieu Père, mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas au fond de lui-même une ouverture à Dieu. Mais c'est le visage de Dieu qui était déformé par sa blessure, voyez. Donc... ces blessures psychiques, on ne peut pas dire qu'elles empêchent le cœur de recevoir la grâce, mais elles favorisent pas le cheminement vers Dieu, hein, ce que je dirais, hein, très simplement. Parce qu'en fait, il s'est converti, mais il s'est converti d'une manière foudroyante, c'est-à-dire pendant la messe, Quand le prêtre a élevé l'hostie après avoir consacré l'hostie, lui, il a vu le visage du Christ, il a entendu une voix lui dire, c'est pas une goutte de sang, c'est tout mon sang que j'ai versé pour toi. Des conversions comme ça. Et il s'est effondré. Ben, il fallait au moins ça pour quelqu'un d'aussi blessé. Après, il y a eu tout un chemin qu'il a dû faire. Il m'a dit, moi, ma plus grande victoire, c'était de pouvoir pardonner à mon père. Mais je pense que de pouvoir appeler Dieu Père, ça a dû prendre du temps en même temps pour lui. Voyez. Mais il a été rejoint par la grâce, alors qu'il avait toujours une haine terrible contre son père, qui avait toujours une colère terrible, qui avait un esprit de révolte terrible. Et il a été foudroyé. Après, si on veut que la personne s'unifie, il faut regarder la blessure et l'aider à aller jusqu'au bout d'un chemin de, comment dire, de libération par rapport à des fausses images du père et tout ce qui l'encombre et tout ce qui le gêne pour être tout simple et tout naturel dans sa relation à Dieu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. Mais vous voyez, c'est complexe parce qu'on pourrait dire de manière voyez, trop simpliste en disant, écoutez, si vous ne faites pas une thérapie, vous n'allez jamais pouvoir rencontrer Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Hein? Mais ce qui est en jeu, c'est plutôt comment dire, l'unification de la personne. Comme je le disais au début par rapport à la question des vertus, le fait de ne pas avoir de vie parallèle et le fait aussi que comment dire, les blessures psychiques finalement contaminent notre relation à Dieu dans sa compréhension et dans son expression.
Peuvent. Et parce qu'il n'y a rien d'absolu. Il y a des personnes très blessées qui découvrent l'amour de Dieu tellement différent de ce qu'elles ont connu qu'elles peuvent faire ça et d'autres pas. Enfin, rien n'est absolu, hein, surtout. Chacun a son chemin et le Seigneur est différent avec chacun. Donc certains, une thérapie va aider, d'autres, il n'y a pas besoin de thérapie, d'autres, la thérapie va gêner, comme tu le diras plus loin et les gens disent, bah, puisque j'ai souffert tout ça, maintenant je me venge et reste dans la révolte et se convertissent pas du tout. Enfin, voilà, hein, c'est... Quel est le juste chemin pour chacun et surtout avec quelle disposition du cœur on prend ce moyen-là. Voilà, c'est ça le plus important, me semble-t-il.
Oui.
Toujours le cœur, même en thérapie.
Alors, il m'a semblé intéressant de creuser l'analogie, parce que je me suis dit, à un moment je me suis dit, mais c'est tellement complexe que Dieu ne peut que nous avoir... que nous aider en nous faisant comprendre les choses par le corps, puisque y a toujours ce parallèle entre dans l'Écriture qui est présent entre la vie du corps et la vie de l'âme. Jésus est le pain de vie, il est la vraie nourriture de l'âme, comme le corps a besoin de pain, l'âme a besoin de nourriture. Le baptême est la naissance, la nouvelle naissance qui est parallèle à la naissance biologique. Donc il y a cette analogie entre la vie physique et la vie spirituelle. Et je me dis, au fond, au niveau de la blessure, doit y avoir aussi moyen de creuser l'analogie. Alors, quand on se blesse physiquement, ce qui est grave, c'est pas tant la blessure au sens du mal que ça nous fait, quand on est blessé. Ce qui est grave, c'est l'infection de la blessure, comme on l'a dit la dernière fois. À ce moment-là, il y a une sorte de... il y a du pus, qu'on peut appeler un poison. Et c'est ce poison qui, si on le laisse se développer, va me contaminer, pénétrer dans mon corps, et développer des pathologies. On peut en mourir. Eh bien, d'une manière analogue, prenons le cas d'une personne qui a été... moi, j'ai un cas devant les yeux énorme d'un garçon qui, à 15 ans, je crois que je vous l'ai dit, a été violé par son père dans une cave. l'horreur absolue. Il y a la souffrance indicible. Après, il y a le ressentiment. Et puis ensuite, il y a ce qui peut se développer à partir de là, dans le psychisme de la personne. Mais vous voyez, prenons un cas plus simple d'une personne qui a eu un père violent, simplement, qui garde du ressentiment au fond de son cœur, et qui ensuite devient à des réactions de colère par rapport aux hommes. On va dire, elle a un sale caractère, elle est pathologique, cette personne. En fait, sa pathologie au niveau de son tempérament coléreux est le fruit d'un poison intérieur qui est autre chose que la colère et qui s'appelle le ressentiment vis-à-vis de son père. Elle peut passer toute sa vie à se dire j'ai vraiment un gros défaut, je suis très coléreux, en plus c'est toujours par rapport aux hommes, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y a vraiment un problème. Bon, elle peut tourner autour du pot pendant toute sa vie, comme si elle peut découvrir le poison caché qui est à l'origine de la maladie. Pour ça, moi je ferai cette distinction blessure, poison, maladie. Un même poison peut engendrer plusieurs maladies. Mais la maladie, au fond, n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a quelque chose qui est au niveau du cœur, pour le coup, qui n'est pas au niveau du psychisme, et qui est la racine secrète de la pathologie. Est-ce que tu... Comment tu...
Oui. Oui, et justement, ce que j'essayais de dire à la fin, la dernière fois, c'est la blessure, c'est mon père est violent, ça c'est le fait. Le fait, mon père est violent, j'ai été battue. Et l'infection, c'est qu'est-ce que j'en fais? Je me dis, c'est un salaud, tous les hommes sont un salaud, je ne veux plus du tout, je leur ferai payer. Je me dis, je l'ai bien mérité, je suis qu'une sale petite fille et de toute façon, je n'ai pas droit au bonheur et il faut que je répare pour tout le monde tellement je suis mauvaise et j'ai fait souffrir mes parents. Qu'est-ce que je me dis? J'ai été adoptée, ses parents, j'en veux plus et je fugue. On peut se dire mille choses, c'est là que c'est important d'écouter en vous et puis dans les personnes que vous accompagnez. Mais qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Quand ton père te battait, tu t'es dit quoi? Je me vengerai. Il a raison. Moi, j'ai une patiente qui m'a dit, mais je suis la pire des enfants. Et mes parents me battaient tous les jours. Ils avaient raison. Ah bon, ils avaient raison. Expliquez-moi. Bon, puis quand on allait plus loin, on a vu que ce n'était pas si simple que ça. Mais pour elle, c'est je suis la pire. Et elle a eu beaucoup de mal à entreprendre une thérapie pour essayer de que ça aille un peu mieux. Elle n'avait pas le droit. Il fallait toujours qu'elle souffre, puisque c'était son identité. Vous voyez comment le même fait, la même blessure, peut entraîner des infections très différentes. Et entraîner, pour une, ça sera la dépression, pour une autre, ça sera la vengeance, pour un autre, ça sera la fuite des hommes, pour un autre, ça sera, etc. Vous voyez? Et c'est là que c'est important de bien écouter. Il n'y a pas un fait qui fait une blessure, une infection. C'est chacun. Et justement, quand on voit les résultats, comme tu le dis très justement, quelqu'un qui est coléreux, mais qu'est-ce qu'il y a au fond de votre colère? Moi, j'ai reçu quelqu'un comme ça qui dit, mais je dis des chapelets, mais je fais des retraites, mais je lis les psaumes tous les jours. J'ai dit, et qui était très violent. Et j'ai dit, mais justement, dans les psaumes, il y a de la violence. Et il me dit, non, j'ai enlevé des psaumes, toute la violence. J'ai tout barré sur ma Bible. Et en fait, il avait été pendant la guerre, il avait vu des SS avec leurs poignards, il était dans sa poussette d'enfant, il se rappelait, dans sa poussette d'enfant, donc 2-3 ans, à la hauteur des poignards, et il dit un jour je me vengerai. Et voilà, mais on a mis un an à trouver ce qui s'était passé. Après ça, il a laissé sa colère, parce qu'elle n'avait plus raison d'être, il en a trouvé la source et l'affection. Vous voyez, par exemple, c'est là, par exemple, qu'une thérapie peut aider. Et que les comportements ne suffisaient pas, et le travail sur les comportements ne suffisait pas. Voilà, ça dépend.
Travail sur le comportement ne suffit pas. Mais c'est souvent à partir du comportement que l'on voit les choses.
Tout à fait.
Il arrive aussi, je cite Saint Dorothée de Gaza, il arrive aussi qu'un frère se croyant installé dans la paix et la tranquillité, lorsqu'on lui dit une parole pénible, soit plongé dans le trouble. Il juge qu'il a raison de s'affliger, se disant lui-même, s'il n'était pas venu me parler et me troubler, je n'aurais pas péché. C'est une illusion, c'est un faux raisonnement. Celui qui lui a dit cette parole, y a-t-il introduit la passion ? Il lui a révélé la passion qui était en lui afin qu'il s'en repente s'il le veut. Pensons à la personne qui a un fond de ressentiment et des colères comme ça. Elle dit, ouais, moi je me mets en colère parce que les autres sont énervants. Mais vraiment, il faut que je quitte ce milieu-là parce que c'est insupportable. Moi, ça. Oui, c'est pour ça que je me mets en colère. Donc il ne voit pas qu'en réalité, à travers les difficultés dans le comportement, les difficultés très concrètes dans la relation, c'est Dieu qui nous donne l'occasion de reconnaître en fait que la passion elle est en nous. Une fois qu'on a reconnu la passion en nous et qu'on ne jette pas la faute sur les autres, on peut passer au degré suivant qui est de se demander mais d'où vient cette passion ? Donc on part de ce qui est le plus extérieur, puis on essaie de remonter jusqu'au cœur, qui, comme dit le catéchisme, est la racine des actes. Mais avant de rejoindre la racine, il faut faire ce travail de vérité que beaucoup fuient parce qu'on n'aime pas réouvrir là où ça fait mal. Mais c'est là où il faudrait faire une distinction, vous voyez, entre des comportements de colère qui seraient simplement épidermiques, et puis des comportements qui ont une racine profonde. Moi, je dis souvent dans la confession aux personnes, le problème, c'est pas que vous ayez tel attachement désordonné à telle chose, le problème, c'est votre attachement à l'attachement. Il y a un attachement à l'attachement qui est lié au fait que cet attachement, il s'enracine dans notre cœur, il a une origine dans notre cœur, et qu'on n'a pas lâché la racine. En fait, on n'arrive pas à lâcher la passion elle-même parce qu'elle est reliée à quelque chose qu'on garde dans son cœur. Si je garde le ressentiment au fond de mon cœur, forcément, quelque part, je suis complice des colères que j'ai, même si je dis ne pas vouloir me mettre en colère. Malgré tout, il y a un lien avec la colère. C'est pour ça que quand Saint Paul dit « Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises », je crois que ce crucifiement correspond au fait d'aller jusqu'à renoncer à ce qui est au poison lui-même, le poison mortel, qui est l'infection elle-même de ce qui contamine en profondeur ma vie psychique. Écoutez le catéchisme du Concile de Trente. De même, en effet, qu'on ouvre avec le fer un ulcère qui est enflé, afin que le pus qu'il renferme puisse en sortir. Ainsi, le scalpel de la contrition, si on peut parler de la sorte, ouvre les cœurs pour en faire sortir le poison mortel du péché. Voilà une image qui rejoint donc cette analogie avec le pus très clairement, mais de dire au fond le scalpel de la contrition. Et c'est quoi la contrition ici? C'est la contrition parfaite, la contrition d'amour, le repentir d'amour qui nous fait détester le péché, notre péché en le voyant dans la lumière de Jésus crucifié, et en tant qu'il offense Dieu, dans une lumière qui est donnée par l'Esprit Saint, qui nous en fait voir toute la gravité, de refus de l'amour. Et en fait, cette grâce de contrition est donc en même temps une grâce de lumière sur le péché, sur la profondeur du péché, et qui nous amène à couper le lien avec ce péché. À ce moment-là, de fait, on déracine la passion, parce qu'on en perçoit toute la profondeur de péché, sans nécessairement faire une psychanalyse. Hein. Parce que de fait, il y a des personnes qui ont été guéries dans les siècles passés par ces grâces de contrition, de lumière de l'Esprit Saint, données comme ça, dans une sorte de lumière foudroyante sur leur péché, hein, et accompagnées d'une grâce, d'un repentir à la mesure de la lumière. J'ai envie de dire qu'une bonne thérapie peut être un chemin qui dispose, qui prépare l'âme à la contrition. Parce que ce qui me vient en parlant, et Florence, je te laisse réagir, mais ce qui me vient, c'est que la perception du péché, vraiment dans toute sa vérité de péché, ne peut être donnée que par Dieu.
Peut-être.
Ça veut dire qu'il faut un contact avec Dieu d'abord ?
Non. Cette lumière, elle est la lumière de l'Esprit Saint qui éclaire toute conscience.
C'est ça.
L'Église nous dit que l'homme ne peut accéder à la vérité sans la lumière de l'Esprit Saint. Mmh. C'est-à-dire de voir vraiment la vérité des choses. On peut avoir une compréhension intellectuelle qui n'est pas encore une vraie vision, mais qui prépare la vision, qui a une première étape. On comprend qu'il y a quelque chose à comprendre, on comprend intellectuellement, on arrive à connecter, mais on n'est pas encore dans la vision, vraiment, le contact avec la réalité du péché, une vision qui est extrêmement douloureuse. Moi, j'ai vécu des moments de contrition parfaite, j'ai éclaté en sanglots immédiatement. Bon, et cette lumière vive sur le péché, quand Jésus dit « L'Esprit Saint établira la culpabilité du monde », moi je pense qu'elle est toujours l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais elle peut être agissante dans le cœur de personnes qui ne sont pas explicitement croyantes, mais qui sont de bonne volonté. Et heureusement que Dieu éclaire tout homme pour qu'il puisse se convertir. C'est toujours difficile de dire, là c'est un travail psychologique, parce qu'on dit travail psychologique, mais la grâce de Dieu elle est agissante partout, donc on ne veut pas délimiter un travail qui serait purement psychologique. Le Seigneur il agit, il se sert de multiples canaux. C'est aussi illusoire que de dire, moi je fais un travail purement spirituel. Forcément, dans l'accompagnement spirituel, il y a des choses humaines qui se jouent. On n'est pas des purs esprits, nous les prêtres, donc notre psychisme, il interagit avec le psychisme de la personne, et là on est dans le psychologique. Alors quand saint Paul dit « Mortifiez donc vos membres terrestres, fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir, la cupidité qui est une idolâtrie, voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent. » La mortification, vous voyez, là, c'est le terme traditionnel. La mortification, elle consiste pas à couper ce qui dépasse. C'est les pharisiens qui cherchaient à présenter des apparences de juste aux yeux des hommes, alors que l'intérieur était rempli de rapines, comme dit Jésus. Vous offrez aux yeux des hommes des apparences de juste. La mortification, c'est pas ça. Parce que ça, d'abord, c'est un travail sans fin, puisqu'on ne va pas jusqu'à la racine du mal. Puis ensuite, c'est pas ça qui intéresse Dieu, qu'on essaye de donner le change aux autres. Mortification, c'est faire mourir. Mortifier. Faire mourir, ça veut dire que comme la dent, elle est morte, si on a Vous en êtes jusqu'à la racine. Et en fait, la tradition de l'Église, c'est le chemin de la pénitence est là pour nous aider à avancer sur cette mort à nos passions mauvaises. Et il s'achève par la contrition, le repentir d'amour, qui nous fait vraiment détester, comme dit le catéchisme, souverainement le mal, et donc nous en détacher totalement. Maintenant, je crois qu'on l'avait dit la dernière fois, la personne qui va jusqu'à la racine du mal en elle, elle peut garder le psychisme le psychisme, il a sa consistance propre. Hein. Donc s'il y a des mauvais plis qui ont été pris pendant des années, il peut garder un certain côté caractère coléreux, un peu coléreux comme ça, mais ça n'a plus de racines profondes. Et je dirais que c'est simplement l'occasion pour lui de rester vigilant, parce qu'il y a la faiblesse de la chair à ce moment-là qui peut à certains moments reprendre le dessus, ce qui explique le fait que l'Écriture dise que le juste pêche sept fois le jour, parce que la chair, le psychisme reste malgré tout marqué, même si à l'intérieur c'est purifié. C'est là où il peut y avoir une confusion, vous voyez, parce qu'on va dire, les personnes, il y a des saints qui avaient des tempéraments coléreux, ça ne les a pas empêchés d'être saints, tout ça. Oui, mais la racine était morte. C'est très différent entre un saint qui garde certains mauvais plis, et puis quelqu'un qui garde ses passions, qui garde un lien, une complicité intérieure. Consciente ou non, mais en tout cas une complicité intérieure, des passions. À ce moment-là, vraiment, ça fait obstacle à la charité divine. Alors, moi, je voudrais souligner maintenant que on pense blessure en pensant surtout aux blessures qu'on a reçues, mais on ne pense pas aux blessures qu'on s'est infligées à nous-mêmes. L'Église a toujours enseigné que le péché nous blesse. On n'est pas blessé seulement par les péchés de nos parents, on est blessé par nos propres péchés. Il y a une puissance destructrice du péché qui s'applique d'abord, enfin qui est agissante d'abord sur la personne elle-même. Mais malheureusement, pas que sur elle. Et donc, c'est ce qu'on appelle la peine du péché, la peine liée au péché. Je crois qu'on parle de justice immanente ici, hein, pour expliquer qu'il y a forcément une peine qui suit le péché, il y a ne serait-ce qu'une tristesse que l'on ressent après avoir commis une faute. Immanente, c'est-à-dire qui découle nécessairement du péché lui-même. La peine, dit le catéchisme, découle de la nature même du péché. Mais l'Écriture dit qu'il y a aussi il n'y a pas que la souffrance liée au péché, mais que quand je tombe dans le péché, c'est comme quand je tombe physiquement, je me fais mal, mais aussi je me salis. Et on parle traditionnellement de la souillure liée au péché. Il y a une peine et une tache. C'est plus difficile, hein, à percevoir ce que peut signifier, ce qui se cache derrière ce terme traditionnel de souillure. On voit bien que quand on tombe par terre, on se salit. Quand on tombe dans la débauche, on regarde et on se complaît dans des choses pornographiques sur Internet, on sent bien qu'on se salit quelque part, on salit son regard, son cœur. Comment cette salissure, cette souillure a été comprise dans la tradition de l'Église ? Essentiellement comme étant un attachement à la créature. Un attachement malsain aux créatures. Je vous cite le catéchisme de l'Église catholique. Tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification.
Attachement créature, mais quand par exemple quand on est égoïste, là je pensais à ça par exemple, à chaque fois que je me choisis moi-même au lieu de choisir l'ouverture aux autres, effectivement je me salis parce que je ne m'ouvre pas à l'amour et je me referme sur moi. Mais là, l'attachement à la créature, c'est l'attachement à moi-même.
Je pense, oui.
Tu penses?
Oui.
Voilà.
Je pense pas qu'on puisse être attaché à soi-même sans avoir en même temps des attachements malsains aux créatures. Je pense que ça va avec.
Ben, si je me préfère en tout.
Oui, mais c'est ça qui est malsain. C'est qu'en fait, je me préfère moi dans mon attachement aux créatures. C'est pour ça qu'il est malsain. C'est qu'en fait, c'est moi que je cherche.
C'est malsain. C'est malsain, mais c'est l'attachement aux créatures, c'est l'attachement à moi, à mon bonheur, à ce que je... ce que je me suis construit comme mon bonheur.
Oui.
Loin de l'amour, loin de l'ouverture, dans la fermeture. Alors je comprends que ça me salisse parce que j'empile de l'égoïsme à l'intérieur de moi et je mets une couche de plus en plus épaisse par rapport aux autres. Mais quand tu dis l'attachement aux créatures, c'est l'attachement à moi-même.
L'attachement malsain qui cache derrière l'attachement à moi-même.
C'est ça.
Je suis attaché aux créatures par attachement à moi-même.
Mais je ne suis pas attaché aux créatures, j'en veux pas les créatures, je veux que moi.
Mais
désolée de vous le dire.
Non, mais je me retrouve quand même attaché aux créatures en étant attaché à moi-même. C'est un attachement malsain.
C'est un attachement malsain à moi-même, je suis bien d'accord. Mais je ne vois pas en quoi j'ai l'attachement aux autres.
Il est malsain cet attachement aux créatures parce qu'il il contient en lui-même un attachement à moi-même. Il est inséparablement de l'attachement à moi-même. C'est-à-dire, dans la fusion, je suis attaché à l'autre parce que je me regarde moi-même à travers le regard de l'autre, je vis à travers l'autre, mais en fait, c'est moi dont il est question. Mais dans le besoin, je suis quand même réellement attaché à l'autre.
Oui, dans la fusion.
Oui.
Mais dans la répulsion.
Moi, je pense qu'il y a, même dans la haine, il y a une forme de dépendance à l'autre, en tout cas.
Tout à fait, ça, je suis d'accord.
Donc il y a attachement malsain, je pense, ça peut être pris de manière très large.
Voilà.
Qui expliquerait, parce que là on est devant une affirmation assez traditionnelle. Et vous voyez que la plupart tous les traités sur la purification de l'âme, c'est essentiellement comment se détacher. C'est vrai que Il y a un passage très beau, on trouve ça chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus comme chez Sainte Thérèse d'Avila, qui disent en gros, on est arrivé à se détacher à peu près des créatures, mais on sent qu'on n'est pas encore détaché de nous-mêmes. Mais on va pas tout de suite à la racine. Et quand Jésus dit que c'est quelqu'un qui me suit, qu'il renonce à père, mère, frère, sœur, mes enfants, tout ça. Et Jules se renie lui-même jusqu'à renoncer à sa propre vie. Il dit bien que ça vient à la fin. Mais je pense que l'attachement à soi est la racine de l'attachement aux créatures.
D'accord.
Malsain. Oui. À la racine du péché, je pense qu'il y a... Oui, il y a l'esprit d'orgueil, l'esprit de possession. Hein. Peut-être ces deux choses-là. Il y a des choses qui sont plus directement enracinées dans l'orgueil, d'autres plus dans l'esprit de possession. Mais... Ayant péché, je me retrouve encore plus dans une dépendance aliénante à l'autre.
Oui, tout à fait. Ça va? Oui? Non, tout au fond. Là.
C'est notre vulnérabilité et on a
un... Oui? Tout à fait. C'est s'ouvrir à l'amour au lieu de se fermer sur des comportements malsains qui ne sont pas de l'amour. C'est ça le péché, c'est par rapport à l'amour. Et si on s'ouvre à l'amour de Dieu, il vient purifier ça. Mais à chaque fois qu'on pêche, on s'alourdit. Et c'est ça, que, quand on dit c'est attaché, quoi, c'est, on s'entraîne dans une mauvaise pente. Et c'est important de revenir sans cesse, bien sûr. N'est-ce pas mon père?
Oui, je suis en train de penser, parce que quand Saint Paul parle du péché qui habite en lui, je ne pense pas qu'on puisse identifier le péché avec les passions désordonnées elles-mêmes, parce qu'elles sont des mouvements du psychisme qui en eux-mêmes... relève pas de notre liberté, elle relève de notre liberté dans la mesure où elles sont rattachées au cœur. Et donc, le péché, il y a péché là où il y a liberté, et donc le vrai péché, il est dans le poison, dans l'infection, dans la racine. Après, il y a des tendances désordonnées au niveau du psychisme. Mais là où ma liberté vraiment est en jeu en profondeur, c'est au niveau de mon cœur. Parce que les personnes vont dire, mais moi c'est plus fort que moi. Ben oui, c'est plus fort qu'eux aussi parce qu'elles gardent une complicité au fond de leur cœur. Elles n'en sont pas conscientes de cette complicité, elles ne voient pas la racine, bon, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que leur liberté ne soit pas intérieurement quelque part engagée. Vous voyez, on peut pas, enfin, en ce sens-là, on ne peut pas non plus dire, ben oui, c'est psychiste, donc ça ne relève pas de la liberté. Non, ça relève de la liberté, mais à un autre niveau que le niveau simplement des passions.
On n'est souvent pas responsable du premier mouvement, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Justement. C'est si cette situation me met en colère, ça m'a échappé, la première fois, ok, mais est-ce que je vais me remettre dans les mêmes situations ou est-ce que je vais être vigilant et essayer de comprendre ce qui s'est passé? Ou est-ce que je m'en sers pour me justifier en disant mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, dans la famille, on est tous coléreux. Ouais, non, c'est pas une raison. Mais voyez comment on justifie, et, comme tu dis, jusque dans la confession, en disant « j'y peux rien ». Alors il y a des choses où on peut rien, mais on peut regarder si vraiment on n'y peut rien.
C'est chez les saints, où il n'y a plus de racines, il y a des premiers mouvements, et puis dès qu'ils en prennent conscience, ça, ils rejettent tout de suite, parce qu'il n'y a plus de complicité. Voilà. Saint Jean de la Croix, il demandait à ses sœurs qu'il confessait de ne pas confesser leur premier mouvement, parce qu'il disait, il y a le premier mouvement, ce n'est pas de l'ordre du péché. La seule chose dont on pourrait se confesser, c'est d'avoir manqué de vigilance dans la prière, qui aurait fait qu'on aurait échappé au premier mouvement. Veillez et priez, chair et faible. Alors, pense que c'est toujours plus facile de voir les blessures causées par les autres que les blessures qu'on se cause à soi-même. Et aussi de penser que il y a une souillure, une salissure qui reste à cause de nos péchés passés et que tout ça a besoin de purification n'est pas une chose agréable à entendre. Mais on est là pour dire des choses désagréables, hein. Bon, qu'on n'entend pas souvent dire parce qu'on vit dans un monde, même à l'intérieur de l'Église, hein, il y a une perte du sens du péché. Le péché, c'est plus grave que ce qu'on pense. Le vrai péché. Alors, je voudrais continuer l'analogie. Ça m'est venu ces derniers 15 jours, il m'est venu que les maladies au niveau corporel, il y en a qui étaient liées à une blessure qui n'a pas été soignée, qui s'est infectée, qui a contaminé, mais il y a aussi des maladies où il n'y a pas de blessure. C'est par contagion. Et au niveau spirituel, est-ce qu'on ne peut pas faire une distinction entre des pathologies qui seraient liées à des blessures et des pathologies qui seraient liées à une contamination? Écoutez Benoît XVI. Aucun homme n'est une monade fermée sur elle-même. Nos existences sont en profonde communion entre elles. Elles sont reliées l'une à l'autre au moyen de multiples interactions. Nul ne vit seul, nul ne pêche seul, nul n'est sauvé seul. Continuellement, la vie des autres entre dans ma vie en ce que je pense, dis, fais, réalise. Et vice-versa, ma vie entre dans celle des autres, dans le mal comme dans le bien. Alors, si on essaye de préciser cette question de la contagion au niveau spirituel, qu'est-ce qui est vraiment contagieux ? Par exemple, vous vivez à côté d'une personne qui est qui a des accès de colère parce que elle a une grosse blessure par rapport à son père et tout ça, bon, elle se met en colère, elle supporte pas l'autorité. Est-ce que vous-même, à votre contact, vous allez devenir coléreux, ne supportant plus l'autorité parce que vous aurez été au travail avec elle pendant plusieurs années? Je suis pas sûr. Bon, elle peut vous énerver et que vous-même il y ait des accès de colère, mais enfin, je ne dirais pas que ce soit contagieux comme ça. Voilà, vous prenez une personne qui est boulimique et qui passe toute sa journée au bureau à grignoter. Bon, ce n'est pas pour autant que vous allez devenir boulimique. Éventuellement, ça peut réveiller des appétits, mais... Mais par contre, l'Écriture dit... Qui touche à la poix sanglue, qui fréquente l'orgueilleux, en vient à lui ressembler. Alors moi, j'en conclus que ce qui est contagieux, c'est pas les passions de la chair désordonnées qui sont les pathologies liées à des infections, tout ça. Mais ce qui est contagieux, c'est le poison, la contamination. Par exemple, si la personne, à partir d'une blessure au niveau affectif, a développé un esprit de possession, un esprit, cet esprit de possession dans les relations. Vous voyez, une fille qui a été aimée par une mère possessive, elle va elle-même, je dirais, être, avoir tendance à être... Enfin, si elle s'est laissée contaminer, hein, il y a la liberté aussi, mais en tout cas, naturellement, elle va elle-même être enclin à aimer d'une manière possessive. Sans qu'on puisse dire qu'elle a été blessée, au sens où il n'y a pas eu de souffrance particulière, elle a simplement bu le poison, si je puis dire. Et encore plus par rapport à l'orgueil, un orgueil familial, un père orgueilleux qui ne pense qu'à la réussite, tout ça, au niveau professionnel, et qui tient tout un langage à son fils pour que lui-même, il arrive et tout ça. On voit bien comment cet orgueil, ça contamine des générations. Il faut absolument être polytechnicien. Oui. Ah, ça, c'est Spé Salvi. C'est Spé Salvi, numéro 48.
SPE, espérance.
C'est la troisième encyclique sur l'espérance.
S-A-L-V-I. Espérance, Salvi, S-A-L-V-I. Et c'est le numéro 48.
Non, je dirais en gros que ce qui est contaminant pour moi peut l'être pour les autres. Le péché qui m'habite, soit de l'ordre de l'orgueil, soit de l'ordre de la... D'un esprit de domination, d'un esprit de possession, de tout ce qui est derrière, c'est plus ce qui est de l'ordre de cachet spirituel qui a tendance à rentrer dans ce phénomène d'interaction souterrain. Ça passe, ça communique, on ne s'en aperçoit pas, mais d'année en année, on est de plus en plus pollué.
Est-ce que tu dirais, quand on dit « tout le monde le fait », moi je fais des photocopies, tout le monde le fait, je paye pas mes impôts, tout le monde le fait, ah, tu fais comme ça, ben moi aussi,
oui.
C'est ça que c'est ce que tu veux dire?
Non, non, mais ça c'est à mon avis c'est autre chose, c'est la force de l'exemple.
Oui, mais c'est ce que tu dis là, la contagion, c'est pas l'exemple, un exemple contagieux.
La contagion par l'exemple, à mon avis, est-ce que ça explique tout de l'interaction? En tout cas, il y a une communication entre les âmes qui dépasse ce que je vois de l'autre.
Ah, d'accord.
Hein, il me semble. Il y a quelque chose qui passe dans l'invisible qui fait que je respire un air vicié et que je suis pollué par cet air vicié que je respire. Sans que j'ai nécessairement un modèle devant les yeux. Maintenant, quelque part, tout se voit avec les yeux du cœur. Enfin, c'est pour ça que c'est difficile de faire une démarcation, mais je ferai quand même une distinction entre contagion par interaction et contagion par la force de l'exemple que j'ai tendance à... On a tous tendance à imiter. Mais c'est une question que je n'ai pas éclaircie entièrement, mais on voit bien en tout cas qu'on peut être entraîné dans certaines formes de mauvais esprit, et d'où découlent des pathologies aussi. Autrement que par une infection de blessure. Alors, on peut avoir quelqu'un qui a été très blessé par un acte violent, par exemple un père orgueilleux qui devient très autoritaire et qui a, je sais pas moi, qui frappe son fils, mais par esprit de domination. Alors le fils a de la colère contre son père, mais en même temps il peut être sur un autre plan contaminé par l'orgueil du père. Alors il sera un blessé orgueilleux. Alors on peut se focaliser sur le fait qu'il a subi un père très violent, qu'est-ce que c'est terrible, il a énormément souffert, toute sa jeunesse, son père lui a fait voulu lui manifester que c'était lui qui avait le pouvoir et qui était un homme vraiment dominateur, tout ça. Et puis en fait, il ne se rend pas compte que lui-même, il a cet esprit de domination et d'orgueil. vraiment avec une blessure en plus. Et il peut y avoir comme ça, il me semble, hein, des contaminations très profondes qu'on n'arrive pas à mon avis, plus difficilement à repérer et plus difficilement à guérir, parce que il n'y a pas de point d'accrochage clair, c'est de l'interaction, c'est de la contamination pure. Ben c'est pas conscient, c'est l'interaction des âmes qui fait ça. C'est pas je veux contaminer l'autre, mais je suis contagieux.
Non, mais celui qui le reçoit,
du coup,
cette contamination.
Ben, quelque part, il y avait une faille, mais ça, la faille, il faut pas la chercher loin. Il y a le péché originel, hein, qui fait qu'on prête le flanc à ce genre de contagion. Maintenant, il peut y avoir des personnes qui ont une grâce de pureté très grande et qui vivent dans un milieu de débauche et qui sortent pures de ça, mais un peu l'exception quand même. À mon avis, il faut une grâce particulière pour pas être contaminé par un esprit d'impureté quand on vit au milieu de gens qui sont vraiment profondément impurs.
Communiquer avec ce qui est caché chez l'autre. Mm-hmm. Vous voyez, c'est comme la conscience au niveau de l'âme. Je sais pas comment je l'ai dit. Et donc, en fait, des mécanismes pécanineux que j'ai à moi, si je ne les ai pas, si n'ont pas été élucidés, discernés, etc., ils peuvent effectivement aller toucher le mécanisme faible, réceptif de l'autre. Il y a une communication du péché et par la question des mauvais plis, etc. Mais il y a la communication du péché aussi par les différents, je dirais, mécanismes psychologiques vicieux aux malades.
Il va y avoir aussi
Une interaction.
Moi, je ferai une distinction entre communication et interaction. L'interaction, c'est beaucoup plus large.
On peut pourrir une interaction chez l'autre, ça que l'autre lui-même soit conscient. Je ne sais pas, c'est là que je vois. Je suis obsédée par les péchés à ce moment. Parce que
l'interaction, elle joue nécessairement. On est solidaires les uns des autres. On interagit constamment les uns sur les autres. Et ça, il n'y a pas de question que la liberté s'exerce à ce niveau-là. Que je le veuille ou non, ce que je suis touche l'autre. Après, il y a sa capacité de résister à une mauvaise influence, mais je l'influe. On est influents les uns sur les autres, quoi qu'on fasse, en bien, en mal. Alors, je pense que c'est... Les inconscients se parlent, c'est différent, c'est-à-dire il y a un dialogue souterrain qui fait qu'on... Sans se parler, on sent les réactions de l'autre, l'autre sent nos réactions et ça s'enchaîne et il y a comme une communication comme ça. Je vois entre prêtres, il y a beaucoup de choses qu'on se dit pas, mais on sent que l'autre réagit comme ça, nous-mêmes on réagit comme ça parce qu'on sent que l'autre. Enfin, il y a des choses qui se jouent comme ça et des fois on se dit bon ben voilà, le truc est réglé, il s'est réglé dans le non-dit, mais il s'est réglé ou il s'est pas réglé, mais en tout cas il y a quelque chose qui communique, c'est clair.
Ça relève de la contamination presque comme le fumeur passif. Ça me fait penser à ce que j'avais lu dans Maïmonide, où il dit si tu rentres chez le vidangeur, tu vas repartir avec des mauvaises odeurs, et si tu rentres chez le parfumeur, tu vas repartir avec une bonne odeur. Même est-ce que c'est une contamination à laquelle on peut des fois pas échapper, à laquelle on ne peut pas. subi un cancer.
Oui, vous entendez au fond des contaminations, bon, ce que monsieur dit là en dernier, c'est si tu rentres chez le vidangeur, tu repars avec une mauvaise odeur, si tu rentres chez le parfumeur, tu repars avec une bonne odeur. Il y a des contaminations comme ça quand on est dans certains milieux. Mais après, moi je crois que le péché est conscient et volontaire. C'est-à-dire qu'on peut être comme ça dans des ambiances, et après, qu'est-ce que moi j'en fais de nouveau ? On est de nouveau devant notre liberté. Et je crois que ce à quoi nous voulons vous rendre attentif ce soir, c'est ça. Il y a les blessures qu'on a eues, mais il y a aussi l'ambiance dans laquelle on a baigné ou dans laquelle on baigne, et quelquefois on se rend pas compte. Moi je sais qu'un jour j'ai eu comme ça une lumière en disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire, et puis j'ai réalisé que j'y avais jamais pensé, tout le monde le faisait, je faisais pareil, puis je me dis mais attends, ça c'est pas de l'amour du tout, mais je croyais que oui, et j'étais dans cette ambiance là. J'ai mis esprit de corps, il y a comme ça des milieux sociaux, professionnels, religieux où on fonctionne comme ci, comme ça. Et puis après on se dit, mais si on regarde un peu comment on vit justement, et en se reparant à la confession, mais et là cet acte-là, c'est quoi après tout ? Tu serais d'accord avec ça ?
Oui, mais moi je dirais pas qu'on est nécessairement contaminé par le mal. Je repensais à Lot. Le Seigneur a délivré Lot, le juste, qu'affligeait la conduite débauchée de ces hommes criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des avenirs qu'il voyait et entendait. Jésus a voulu se rendre solidaire de nous pour vivre cette interaction, subir cette interaction, mais avec un amour qui a assumé le mal qui le pénétrait, la boue du péché qui se déversait sur lui, avec un amour qui dans la souffrance, a pas seulement résisté à ce mal du péché, puisque insulter il ne rendait pas l'insulte, mais qui l'a consumé par un amour plus fort. Ici, Lot nous est présenté comme torturant son âme à cause de tout ce qu'il entendait. Personne qui se laisse contaminer, elle ne torture pas leur âme, elle se laisse glisser dedans. Parce qu'elles ne sont pas assez pures elles-mêmes au départ pour percevoir, pour avoir cette réaction spirituelle, c'est de percevoir la malice d'un milieu, d'un esprit, et qui fait en même temps qu'on en souffre, parce que c'est la différence qui fait souffrir. Et qu'on vit cette souffrance dans un combat spirituel qui fait que, loin d'être contaminé, on aide à purifier le milieu dans lequel on est. C'est l'œuvre de la rédemption. Donc il y a une rédemption possible, il y a un combat possible qui fait que non seulement on ne se laisse pas entraîner dans le mal, mais qu'on peut décontaminer les autres. Ça, évidemment, sans la grâce de Dieu, je ne vois pas comment on pourrait mener ce combat-là. Mais en tout cas, c'est un combat que Jésus a mené pour nous. La maladie contagieuse, par excellence, c'est la peste. Alors, je me suis amusé à regarder dans l'Écriture s'il y avait des pestes. Mais il y en a. À propos de Saint Paul, les pharisiens disent « Cet homme, nous l'avons constaté, est une peste. Il suscite des désordres chez tous les juifs du monde entier. C'est un meneur du parti des Nazoréens. Il entraîne les autres, il contamine les autres. C'est une peste. » Donc la peste, c'est vraiment celui qui est contagieux pour les autres, parce qu'il a un mauvais esprit, il entraîne tout le monde. Alors, il faut absolument se débarrasser de cet homme. Oui ?
tout à fait.
Ben, c'est de ça dont on parle. Il y a une contamination qui se... Qui se... C'est sûr que le petit enfant, ben, il y a la grâce du baptême qui peut être là pour le protéger, mais il est hyper vulnérable à cette contamination. Maintenant, dans une même famille, vous remarquerez bien qu'avec le même esprit, par exemple, fusionnel, d'une mère, les enfants vont être plus ou moins fusionnels. Donc il y aura quand même une capacité de résistance plus ou moins grande, en tout cas on aura plus ou moins laissé passer le poison.
Puis c'est justement ça la conversion, c'est-à-dire qu'en lisant l'Évangile, en fréquentant des chrétiens, on se dit tiens, mais ils n'agissent pas comme moi, ou justement ce que je disais tout à l'heure, tout d'un coup on dit mais attends, alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est une habitude familiale, sociale, professionnelle, je sais quoi, et de se dire maintenant c'est pas en lien avec l'Évangile ça, c'est pas chrétien ce que je suis en train de vivre là. Vous voyez, c'est petit à petit qu'on prend conscience de là où nous sommes. Tu sais qu'il est moins le quart.
Alors, je cite quand même un dernier exemple pour vous dire que la contagion, elle était connue et depuis longtemps. Rappelez-vous ce que saint Paul dit aux Corinthiens à propos d'un homme qui vit avec la femme de son père. Donc, ici, situons-nous dans le cas de quelqu'un qui serait vraiment de la perversion. Et qu'est-ce que dit saint Paul? Mais ça vous peut qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Contamination. Et résultat, enlevez le mauvais du milieu de vous. Je pense que quelqu'un qui serait responsable d'une communauté, d'un groupe, et puis il y a quelqu'un dans le groupe qui est vraiment d'un esprit d'impureté et qui, de manière consciente ou inconsciente, entraîne les autres. Moi, je dis ça, c'est motif d'exclusion. Enlevez le mauvais, le pervers du milieu de vous. Là, je ne cite pas un exemple de Sainte Thérèse d'Avila, parce que
non.
Florence a trouvé qu'elle était vraiment trop dure.
Je ne connaissais pas la psychologie. J'adore Sainte Thérèse d'Avila.
Mais moi, ce qu'il me dit, c'est elle parle d'une religieuse contaminante, elle dit enfermez-la dans une prison.
Tu vas raconter quand même.
Mais, hein. Ou alors envoyez-la dans un autre couvent. Je trouve ça terrible.
Il y a effectivement à se protéger, hein, et qu'il y a des personnes qui vraiment font du mal. Mais il y a aussi la miséricorde pour ces personnes-là et le soin à prendre de ces personnes-là aussi. C'est contre ça que je me suis insurgée. Parce que bonjour le couvent suivant qu'il récupère. Hein? Et puis cette personne-là, elle est aussi dans la miséricorde de Dieu. Voilà.
Mais alors quand on accompagne des gens, il faut... C'est une question bête, est-ce qu'on doit avoir des adresses, des très bons psychologues?
Mais bien sûr.
Des très bons prêtres.
Mais évidemment. Je souris, vous voyez bien, en disant des bonnes adresses, mais surtout alerter la personne qu'elle a besoin de faire aussi un chemin psychologique et elle va trouver. Il faut faire confiance aux capacités des personnes plutôt que de donner des adresses, parce que là, je ne vous fais pas un cours sur le transfert et contre-transfert, mais si c'est toi qui me l'as donné, soit je vais trouver la personne bonne parce que je t'aime bien, soit je vais la trouver mauvaise pour te dire je veux rester qu'avec toi. Je coupe à la serpe là, hein. Et que c'est plus important, on peut donner une liste d'adresses, mais pas prime. Et c'est mieux quand la personne cherche par elle-même. Mais bien sûr, comme vous envoyez chez le médecin, si vous voyez qu'elle est verte, eh ben, pourquoi pas envoyer chez les psys, puis évidemment chez le saint prêtre que nous connaissons.
Non, je reviens sur la question de la force de l'exemple, parce que je repense à la parabole du semeur. Vous pensez que notre cœur, c'est une terre. L'homme est une terre parce qu'il a un cœur. Notre terre intérieure, c'est notre cœur. Et qu'il y a donc des bonnes semences, comme aussi peut y avoir du mauvais ivraie, de mauvaises semences qui sont semées. Et notre vie dépend d'une parole. À l'origine, il y a la parole. Tout est réponse à une parole. Et que nos parents ont été la première parole qu'on a entendue. Parole vivante. Ce qu'ils sont et tout ça nous a influés aussi comme parole vivante qui nous a pénétrés. Et la parole qui nous pénètre, voyez, c'est plus profond, c'est plus large que simplement le mauvais exemple que je vois ou que je ne vois pas. Il y a quelque chose de plus fondamental que l'autre est une parole pour moi et qui pénètre ma terre intérieure. Maintenant, je peux ne pas consentir à cette parole. Enfin, je peux ne pas adhérer à cette parole. Là, il y a quand même ma liberté qui peut jouer. De fait, c'est une parole que j'entends, qui ne peut pas ne pas me toucher, mais je ne suis pas obligé d'y adhérer. Vous voyez, on peut prendre les choses sous différents angles. Ce qui est sûr, c'est que l'essentiel se joue à une profondeur, qui est celle de cette interaction des esprits, des cœurs, et qui échappe à la simple analyse psychologique, enfin classique en tout cas, parce que là on est dans quelque chose qui est vraiment au-delà de du palpable. C'est différent d'une blessure, il y a un événement où là on parle de quelque chose de concret, qu'on peut travailler, mais c'est cette contamination spirituelle est d'autant plus dangereuse qu'elle peut rester cachée toute une vie. Donc moi, j'en conclus que par rapport à notre chemin de sanctification, bon, on a vu l'importance de la désinfection de la blessure, mais le terme de guérison, voyez, doit être complété par le terme de purification, qui me semble très important. Purification peut s'appliquer au fait d'enlever le pus, l'infection, peut s'appliquer au fait d'être purifié de l'esprit, du mauvais esprit qui nous a contaminés, peut s'appliquer même aussi aux tendances, aux souillures que je me suis infligé à moi-même par mes propres péchés, peut s'appliquer aussi aux tendances au mal liées au péché originel. Et si on considère cela, on se dit qu'au fond, c'est pas étonnant qu'un grand, le prince des mystiques, Saint Jean de la Croix, ait décrit dans la montée du Mont Carmel le chemin d'union à Dieu. Hein, c'est en dessous de la montée du Mont Carmel, il y a comment se disposer promptement à l'union à Dieu, hein, se disposer promptement. Eh bien, essentiellement en deux parties, purification des sens, purification de l'esprit. En tout cas, le terme essentiel, c'est purification. Il ne dit pas guérison à ce moment-là, il parle en termes de purification. Mais on peut comprendre qu'en raison de la purification, il y a des guérisons qui s'opèrent. Mais quelque part, la purification dit quelque chose de plus profond, enfin, dit la racine, enfin l'essentiel du travail, il me semble. C'est là. Je te laisse réagir, Florence, si le terme ne te semble pas adéquat, mais je me suis posé la question, pourquoi aussi ça revient aussi souvent dans l'Écriture, parce que souvent Dieu dit purifiez votre esprit, purifiez votre cœur, nettoyez vos mains, purifiez l'intérieur, et puis l'extérieur sera pur, pharisiens insensés, aveugles, hein. Donc, c'est cette image du vase qui doit être purifié, c'est cette image de la terre qui doit être labourée, on doit enlever ce qui... Donc, c'est plus un travail je dirais, d'arracher ce qui est les racines du mal en nous, ce qui nous contamine, ce qui contamine notre vie, pour laisser la grâce couler. C'est surtout un travail de défrichage, finalement, que Dieu attend de nous, de nettoyage. Benoît XVI, lui, parle beaucoup de saleté, il dit les saletés qu'il faut brûler, consumer. C'est finalement... c'est quand même ça, l'essentiel du chemin. Je te laisse.
Alors, tu fais une réaction. Pour moi, l'essentiel du chemin, c'est l'amour. Alors, oui, purification en vue de l'amour de Dieu.
Oui.
Et je crains quand on parle trop de sanctification, enfin moi je l'entends, par mon histoire, moi je l'entends comme je suis tout seul et je me donne beaucoup de mal pour y arriver en haut de cette montagne. Alors qu'au contraire, c'est parce qu'on a rencontré l'amour et qu'on a envie d'être de plus en plus ouvert à cet amour, baigné dedans. C'est pour ça que j'aime bien le terme de Simone Pacaud d'évangélisation des profondeurs, c'est-à-dire de recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de la Trinité que nous avons fêté ce dimanche, qui m'envahit entièrement. Et c'est ça mon but. Mon but, c'est pas la purification. Mon but, c'est que je sois inondée de la Trinité Sainte. Alors pour ça, bien sûr, il y aura des purifications. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas ça mon but. Et c'est toujours accompagné, comme tu le dis, la grâce nous précède, l'esprit agit en chacun, mais c'est en tout cas pas tout seul. Et c'est appuyé sur la force de l'esprit, sur la parole de l'évangile, et bien sûr sur ce qu'on peut vous dire et nous dire. Pour moi, l'essentiel, c'est avant tout cette vie d'union à Dieu, qui nécessite qu'on soit purifié parce que nous sommes pécheurs et que nous sommes limités. Mais c'est le but est ça. T'es d'accord ?
Oui. Ouf. En possession de telles promesses, ça c'est l'évangile.
Oui.
Parce que vous avez entendu ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et l'esprit, achevant de nous sanctifier dans la crainte de Dieu.
Tout à fait. Là, il y a la promesse.
C'est dans l'ordre de la promesse. Maintenant, ce travail de purification, donc c'est le Christ qui seul peut aimer d'un amour décontaminant,
tout à fait.
D'un amour plus fort que ce poison mortel, du péché spirituel, de l'orgueil, de l'esprit de cupidité, de tout ce qui est la racine des pathologies. La psychologie peut mettre en évidence la racine, mais par elle-même, elle n'est pas purifiante. Et donc, il faut penser que ce travail de purification, c'est le Christ qui l'opère. Et c'est là où je complète quand même, Florence, ta pensée, c'est qu'il peut l'opérer même chez des personnes qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Moi, je l'ai vu souvent à l'hôpital. Là, on a deux expériences un peu différentes, parce que Florence parle peut-être de son expérience thérapeutique, mais aussi son expérience à Bethesda, où là, on a des personnes qui sont quand même, on va dire, quand même plutôt disposées à entendre la bonne nouvelle, en tout cas, auxquelles on adresse cette bonne nouvelle. Mais moi, j'ai eu l'expérience d'un aumônier d'hôpital, pendant 10 ans, au chevet de personnes souffrantes, qui, dans leur souffrance, traversaient un processus mystérieux qui les amenait à voir et à regretter leur péché. C'est-à-dire à avancer sur un chemin de repentir. Et tout ça se faisait dans le silence, sans dialogue avec le prêtre. Moi, j'arrivais à la fin et je voyais le travail de la grâce. Donc moi, je pense qu'il y a des... À la purification est liée la notion de souffrance purificatrice. Donc bien... pouvoir le dire, même si ce n'est pas à la mode. Hein. Et les souffrances purificatrices, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la souffrance, dans la souffrance, parce que Jésus est là présent, agissant dans le mystère de la rédemption, parce que la souffrance liée au péché, comme dit Jean-Paul II, la souffrance liée au péché, Jésus l'a liée à l'amour, évidemment, il s'est servi des conséquences, il a assumé les conséquences de nos péchés, faire que les conséquences de nos péchés, que la peine liée au péché puisse devenir chemin de purification. même quand la personne n'adhère pas encore explicitement au Christ. Oui, non, je pense minimum d'ouverture de cœur, hein, pour que la personne ne reste pas enfermée dans un esprit de révolte ou de. Voilà, mais qu'elle se laisse rejoindre par un amour qui assume et consume le mal du péché, qui a assumé et consumé le mal du péché sur la croix et qui continue à assumer et à consumer dans nos souffrances ce mal du péché. Voilà, ici on rejoint la distinction que fait saint Jean de la Croix entre purification active et purification passive. C'est-à-dire, il y a une part de la purification qui peut se faire passivement. Ça, c'est vraiment l'œuvre de la rédemption qui s'opère, des souffrances dans lesquelles on ressort avec des lumières et des. Suite à l'épreuve endurée par son âme, mon serviteur verra la lumière. Et puis il y a des purifications qui relèvent vraiment de l'engagement de notre liberté, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est un appel à mener le combat de la mortification, de la pénitence, voilà. Donc ce côté d'engagement de nous-mêmes, et qui sera toujours aussi porté par la grâce. La prochaine fois, on essaiera. On lancera une première réflexion quant à ce travail et l'intérêt qu'il peut y avoir de ce qu'apporte la psychologie par rapport à ce travail, en tant qu'il dépend de nous, une purification active. Comme je vous l'ai dit, c'est l'année prochaine, on continuera donc, sur un module de 4, je crois, soirées, cette réflexion. Voilà, qui devrait nous aider à nous laisser davantage faire par le Christ.